cas.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Que la lutte libère.
Couleur Tropicale, musique, musique, musique.
Couleur Tropicale avec Claudie Ciard.
Talk show.
Et Mathieu Salabert, Léa Zanuto, Kefil Saka, Benoît Le Tyran, Fabien Munieret, Souhel Kedir à la vidéo. Bonne arrivée la famille, le talk show de Couleur Tropicale, cinquième numéro. Nous aurions dû recevoir Némir, mais un contretemps dans son emploi du temps nous prive de sa présence. Ce n'est que partie remise, ça arrive de temps en temps comme ça. En revanche, aucune absence, aucune défection chez nos chroniqueurs. Madame Météo, Madame Soleil, notre Mamie Wata des réseaux sociaux, Loïka Touyindi.
Mamie Wata.
Je reconnais, lorsque j'ai écrit Mamie Wata, je me suis dit non, là, t'abuses un peu.
Mais
non,
négative,
non, mais c'est, oui, il y a un côté divinité, ah truc et tout. Ouais, bon, j'enlève Mamie Wata. Je vais pas recommencer, mais j'enlève Mamie Wata. Voilà, tu vois, regarde, j'enlève, tu vois, je te prouve, j'enlève. Regarde, j'ai enlevé, tu vois, regarde.
Je suis d'accord, là.
D'accord, merci beaucoup. Son festival est un événement dévolu aux femmes. Dans Couleur Tropicale, son propos est à destination de tous, tout en étant consacré aux femmes. Dolores Baquela.
Bonsoir.
Faut-il que j'enlève, oui, applaudis-toi, faut-il que j'enlève quelque chose, faut-il que j'enlève quelque
tout
chose.
Tout va bien, tout était
non
parfait.
J'aurais pu juste mettre le nom du festival, le rappeler encore une fois.
Oui, Fresh Women Festival, merci.
D'accord, je le rajoute.
Voilà, pour la prochaine fois.
Je le rajoute, ok. Women Festival.
C'est ça.
Donc, c'est voilà. FWF. Mais ça. Ce n'est pas for World Golf Force. Grâce...
Wow.
Grâce à lui, nous devenons des privilégiés, des têtes couronnées du savoir quand il s'agit de ce qui se dit et se vote dans les hémicycles d'Afrique. Prince Bafouolo.
Bonsoir, c'est un plaisir d'être à la maison.
Au moins, voilà quelqu'un qui ne me reprend pas, qui n'a
il
aucune
a
remarque à faire. Non, mais c'est. Pourquoi je. Mais j'ai honoré tout le monde. J'ai honoré tout le monde. Et enfin, celui qui, en un sujet, nous ouvre d'autres portes, nous obligeant à mieux réfléchir sur notre monde, ce qu'il est, ce que nous sommes. Thierry Noiron.
Merci. C'était très, très bien dit, j'ai beaucoup aimé.
C'était très bien dit.
Tu peux rajouter l'homme au bonnet aussi, ça.
Je rajoute l'homme au bonnet. Vous êtes... C'est dur, hein, ce cinquième numéro va être très difficile. Donc c'est vous qui êtes les invités principaux, hein,
ouais,
si je puis dire. Et moi, je
ne
suis là que pour vous honorer encore et encore.
Avec
comment
plaisir.
Allez-vous ?
Ça va, très bien. Ça va, super.
Êtes-vous d'accord si je dis que l'un des événements discographiques de cette fin d'année 2019 est le double album de Dadju, Poison ou Antidote ?
Totalement d'accord. Oui.
Je me prêtais de faire des sous tous les jours, mais j'ai oublié.
C'était toi d'abord, c'est le titre de cette chanson. Alors, l'album Poison ou Antidote nous a rappelé l'album d'un autre artiste congolais baptisé Poison Antidote. Et qui connaît le nom de cet artiste congolais ?
Ah, moi, je pensais pas à lui, en fait.
Tu pensais à quoi ?
Moi, je pensais à l'album de Maître Gims, en fait, son grand frère, ouais. Avec la pilule bleue, la pilule rouge, en fait, sur ce...
Oui, mais quel est le nom de cet album ? C'est pas Poison ou Antidote.
Non.
Bon, voilà. Donc alors.
La description, ça marche pas.
Non, non, non.
Là, je cherchais sur Internet.
Prince, je vois que Prince a son téléphone.
Non, non, mais
tout
je
à
suis
l'heure,
sur,
pourrez...
je suis sur autre chose. Hein.
Non, tout à l'heure, vous pourrez utiliser Internet car j'ai dans le quiz quelques questions à vous poser, mais pour l'instant, il n'y a pas de téléphone.
Ah non, non, mais alors, je suis sur autre chose. Hein.
D'accord.
Est-ce que je peux porter plainte pour fausse accusation ?
C'est possible. C'est possible. C'est possible.
Pas mon cher Claudie.
Bon, alors, qui a trouvé ?
Il m'a étendu ici. Qu'est-ce qui se passe ?
Qui a trouvé ?
Non,
autre artiste congolais. On l'appelle le métis noir.
Fabregas.
Oh oui, Loïka.
Hey.
Eh oui. Eh oui. Tout ça. Il s'agit bien de Fabregas. Et là, vous écoutez le titre Tangaba, qui a été enregistré en live dans Couleur Tropicale en 2016. Voilà, le métis noir. Il suffit que je dise le métis noir.
C'est ça.
C'est vrai que c'est tellement étonnant, le métis noir.
Ah bah ouais, c'est comme l'homme au bonnet.
les attaques.
On avait dit
pas les vêtements.
Ok, donc s'il vous plaît, on ne peut pas dire évidemment qu'il y ait plagiat dans cette histoire-là, hein, puisque les chansons, c'est les chansons qui sont importantes, et les chansons n'ont rien à voir entre l'album de Dadju et l'album de Fabregas.
Mais il y a quand même pas mal d'albums là, qui sortent avec le mot poison, antidote, il y a un climat
médicament
haineux.
Et puis,
pareil, le titre médicament.
Oui.
L'album de Shai, c'était antidote aussi.
Exactement.
La pilule, le remède, c'est assez.
Peut-être qu'on est tous malades cette année, je ne sais pas.
Ouais, je ne sais pas. Et puis il y a un artiste congolais qui s'appelle Poison quand même.
Ouais. Ah oui.
Ok. puisque j'ai flirté, j'ai effleuré le mot et prononcé le mot plagiat, il y a quand même quelqu'un qui est dans l'actualité en ce moment. Mm-hmm. C'est l'un de nos grands humoristes, Thomas
Gijol. Ah oui, effectivement.
Et qu'on accuse effectivement de plagiat. Ouais. Alors juste, alors qu'en pensez-vous?
Bah en fait. Moi, je trouve que c'est dommage de répondre à une attaque par l'attaque. C'est-à-dire que son explication sur Instagram, enfin, je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il dit, mais en fait, il démonte point par point toutes les vidéos qui sont postées par Copy Comic où il montre les accointances entre ce qu'il dit lui et ce que fait Eddie Murphy, Chris Rock et principalement Dave Chappelle, hein, qui sont les trois humoristes dont il se serait inspiré. Je trouve ça juste dommage qu'il finisse par l'appeler Copy Caca, etc. Parce que du coup, je trouve que ça affaiblit sa défense. Voilà. C'est tout. Après, malgré tout, depuis que Copy Comic en fait a évoqué en fait ces affaires, on est aussi plus attentif sur le fait que l'humour c'est aussi des œuvres et qu'il faut respecter en fait le travail, même si on sait que beaucoup d'artistes et de comics se sont inspirés. Et du coup, je trouve ça dommage qu'ils disent pas je me suis inspiré sans l'insulter, Copy Caca, etc.
Ouais.
Je trouve que c'est dommage en fait parce que ça affaiblit sa défense. Voilà. C'est ça.
Mais d'autant que le stand-up ayant été inventé par les Américains, on peut comprendre qu'on s'en inspire. Des artistes de la Caraïbe, d'Afrique et de France se sont inspirés des Jamaïcains lorsqu'ils voulaient faire du ragamuffin et aujourd'hui du dancehall.
Bien sûr.
Mais moi, je pense que ça marque aussi un manque de renouvellement parce qu'il n'est pas le seul Thomas Gijol dont on a parlé en tout ce qui est, pour tout ce qui est copie, tout ce qui est plagiat. Je sais qu'on avait parlé aussi de Gad Elmaleh cette année, on en avait parlé. Donc moi, je pense que ça manque aussi de renouvellement peut-être dans l'humour et en fait, on ne sait pas se renouveler, on tombe tous un peu dans un lieu commun et on fait rire avec les mêmes choses, avec le même centre d'attente.
On ne peut pas quand même dire que Thomas Gijol ne soit pas un artiste de talent.
Oui, non.
C'est un artiste de talent et je pense qu'il faut rappeler aussi que dans l'humour et même dans la musique, il y a les top liners, il y a des personnes qui vendent leurs sketchs, qui sont ensuite réutilisés. Donc c'est pas du plagiat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Et Copy Comic, quand il poste ses vidéos, on avait le cas avec Gad Elmaleh, on s'est rendu compte que les personnes qui l'auraient plagié font ensuite partie de son équipe et ils ont travaillé ensemble sur l'élaboration de ses sketchs.
Ouais.
Donc je pense que c'est chercher un problème là où il n'y en a pas vraiment.
Je serais d'accord si par exemple aussi la défense de Gad Elmaleh, elle a été quand même assez légère, remise en cause, et que dans les interviews, notamment dans celles qu'il a données dans Quotidien, on avait du mal à se rendre compte vraiment de ce qu'il dit. Quand il dit Jerry Springfield c'est un ami, arrêtez de dire que je l'ai copié, ça répond pas du tout à la question de savoir si tu as littéralement plagié ou pas des morceaux des sketchs. Par contre, la question de savoir comment en fait on décrypte et comment on fait un sketch, tu vois, tu parles des top liners, top line, la question de la mélodie dans la musique, il s'agit pas du tout de top line, c'est des gens qui vendent leur service, c'est autre chose que des accusations de Copy Comic, à mon avis.
Mais d'accord. Copy Comic, il envoie juste une accusation de plagiat sans savoir justement si ça n'a pas été un achat. Il est là le problème.
Oui, mais c'est la réponse de Thomas Gijol n'est pas celle-là. Si Thomas Gijol disait désolé, on travaille comme ça, or c'est pas ce qui se dit, c'est de l'invective. Donc du coup, on a du mal à comprendre est-ce que Copy Comic a raison ou pas. Et ça n'a pas résolu l'histoire pour l'instant.
Je vais maintenant passer au vote avec Prince et Missy. Alors tu aurais voté pour quel, à ton avis? Peut-on lui reprocher quelque chose?
Alors moi,
à
je ne m'aventurerai pas.
De l'oreille parle de sa défense. Et Thierry nous explique comment ça se passe aussi dans ce milieu-là. D'accord.
Je me pencherai plutôt de l'oreille.
Attention,
je
disais
que je ne m'aventurerai pas bien loin, hein, parce que je n'ai pas suivi la question dans le fond, donc je ne préfère pas faire des commentaires
là-dessus.
D'accord,
bulletin blanc. Alors justement, en ce 22 novembre, nous honorons la mémoire de la reine de Madagascar, l'une des reines les plus célèbres, c'est Navalone III, couronnée le 22 novembre 1883, et c'était le jour de son anniversaire. Voilà, c'était une vraie femme déterminée, une femme de conviction. Elle était toute jeune lorsqu'elle a été couronnée. Voilà, je voulais vous parler de cette femme-là. Ça me permet de faire un enchaînement facile, puisque nous allons parler d'une femme au cœur de l'actualité en France en ce moment, chère Dolores.
Exactement, Claudie. Et le féminisme est l'affaire de toutes et tous, hein, tu le rappelais. Quand
vous en fichez de ce que je vous ai raconté sur cette reine de Madagascar.
Non, je crois
que
la transition était très belle.
C'est justement parce que la transition était tellement belle qu'on s'est tue.
Non, mais d'accord, mais bon, d'accord.
Non, mais par contre...
Elle était en plus magnifique, c'était une beauté incroyable.
Non, mais par contre, il y a un vrai point, c'est qu'on devrait en savoir plus, en fait, sur... Je pense qu'on est aussi un peu interloqué aussi parce qu'en fait on n'apprend pas assez en fait.
Mais oui. C'est pour ça qu'on le fait régulièrement.
Exactement, et c'est très
important. Que tu lis fais là, on est très impressionnés.
Et c'est très important.
Allez, Dolores.
Donc en tout cas, ouais, Claudie, tu disais tout à l'heure, le féminisme est vraiment l'affaire de toutes et tous. Moi, je suis vraiment pas là pour dire que bien c'est sûr. Que l'affaire des femmes. Au contraire, et notamment quand il s'agit de parler des violences faites aux femmes. Donc je vous propose d'écouter Edoui Plenel à ce sujet, le cofondateur de Mediapart.
Je suis vraiment en colère. Mais la question, ce n'est pas tant moi, comment je survis ou pas à cela. Je veux raconter un abus malheureusement banal et dénoncer le système de silence et de complicité qui, derrière, rend cela possible. Car le silence joue toujours en faveur des coupables. Ce sont les mots de l'actrice Adèle Haenel confiés à ma consoeur Marine Turki dans une enquête remarquable de longueur, d'ampleur, de détails, de précision, de rigueur que nous avons mis en ligne sur Mediapart.
Loïka, Terry, Claudie, Prince, est-ce que vous avez fait partie justement des 500 000 internautes et plus qui ont vu, entendu Adèle Haenel le 4 novembre sur Mediapart ?
Oui.
Oui.
Ouais, donc moi, je me suis posé une question, c'est comment on en arrive là, en fait, à ce qu'une jeune comédienne française, multiprimée pour des films que vous avez peut-être vus, comme Suzanne ou Les Combattants, parle 17 ans après le début des faits. Déjà, il faut la prise de conscience, c'est ce qu'elle dit, la prise de conscience de ce qui s'est passé. Pour Adèle Haenel, c'est après avoir vu le documentaire sur Michael Jackson, Living Neverland, on l'écoute.
Depuis que les faits se sont produits, c'est toujours quelque chose que j'ai gardé en moi, en fait. C'est-à-dire que j'en ai pas forcément parlé, voire j'en ai très peu parlé, et j'ai compris que... Enfin, voilà, qu'il s'agissait pas que d'une histoire privée, en fait, mais que c'était une histoire publique, et que peut-être que j'avais adhéré à la version de Christophe Ruggia, et qui qualifiait cette histoire d'histoire d'amour, même si moi, j'y avais jamais vraiment cru intimement.
Donc elle avait 12 ans, et du coup, 17 ans après, elle se rend compte que l'intime est éminemment politique. Donc comment on en arrive là à ce qu'une actrice connue révèle ses agressions sur un média ? Donc je rappelle, la vidéo qu'on a vue, c'est en fait un retour sur l'enquête donc, menée par Marine Turki, qui est donc la journaliste qui a enquêté pendant 6 mois. Et on y lit notamment dans cette enquête les propos de l'ex-compagne et de la sœur du réalisateur qui est incriminée par Adèle Haenel. Donc comment on en arrive à ce qu'une actrice parle de ses faits sur un média plutôt qu'à la justice ? C'est que, à mon avis, si MeToo a eu lieu aux États-Unis avec Harvey Weinstein, vous avez sans doute entendu parler de ce fameux producteur américain, il y a 2 ans, il y a eu aussi un documentaire. Donc, et c'est suite à une enquête de plusieurs années menée par plusieurs journalistes, il y a un fait en France, MeToo dans le cinéma n'a pas eu lieu. En fait, Adèle Haenel dit d'ailleurs parler parce qu'elle peut se le permettre, effectivement, elle est visible désormais. Et partout dans le monde, en Afrique notamment, des femmes essaient de se faire entendre. Souvenez-vous du FESPACO, peu plus tôt cette année, pour le 50e anniversaire de ce MeToo Festival des films et des séries d'Afrique. La réalisatrice et comédienne Azata Soro, ainsi que Nadej Bosondian, qu'on connaît quand même assez bien, avaient alerté sur les violences qu'elles avaient subies. À cette occasion, une pétition avait été lancée, le hashtag « Même pas peur » aussi. Mais qui en parle encore, en dehors des milieux militants ? Qui s'en souvient ? Et surtout, quelle suite pour le réalisateur Tahirou Tassere Ouedraogo, qui avait été mis en accusation pour avoir agressé Azata Soro avec un tesson de bouteille quand même au visage. Je veux dire, elles sont nombreuses, celles qui parlent comme si, pardonnez-moi l'expression, elles pissaient dans un violon, celles qui portent plainte et qui sont intimidées par des proches, du présumé agresseur quand elles le font. Alors je me dis, après toutes ces révélations, et si on changeait enfin d'argument ? Et si plutôt que de dire que la parole se révèle enfin, on disait « on ne fera plus comme si vous n'avez rien dit ». Les femmes ne disent plus « yes we can », elles veulent entendre « yes, on vous croit ». Parce qu'à chaque fois, si la présomption d'innocence des présumés agresseurs doit être respectée, c'est clair, la présomption de véracité, comme l'appelle la sociologue Irène Théry, le droit des victimes à être crues est tout aussi important. Qu'est-ce qui bloque encore ? Le fait que le collectif fasse défaut, sans doute, que la menace d'une sanction puisse tomber. Les prises de parole des autres comédiennes françaises reste encore timide. Hein. On a entendu juste Isabelle Huppert, mais sinon c'est tout. Alors ne nous y trompons pas, pardon. Adèle Haenel n'appelle pas au lynchage sur la place publique, mais nous demande de nous regarder et surtout de faire société.
Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on doit... Comment dire, je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer.
Les agresseurs, ce sont nos tontons, nos frères, nos pères parfois, et nous-mêmes qui n'entendons pas, ne parlons pas, parce que ce serait tabou. L'unique tabou à briser désormais, selon moi toujours, ce sont nos silences parfois, encore trop souvent complices.
Ouais, et puis il y a également tout l'aspect judiciaire de la chose, et avant cela, policier, puisque certaines femmes, lorsqu'elles sont devant des officiers de police ou devant certains gendarmes, eh bien, on n'accorde pas de crédit forcément à leurs paroles, peut-être parce que parfois, certains de ces hommes qui sont là pour justement enregistrer les plaintes sont peut-être eux-mêmes des hommes violents. Voilà, il ne faut aussi pas oublier ça. Les réactions des uns et des autres, qui souhaitent s'exprimer?
Moi, j'ai été marquée par le calme qu'elle avait. Elle était vraiment très calme dans toute l'interview. Elle était en paix, j'ai envie de dire, mais c'était, c'était aussi le calme qu'elle avait. C'était vraiment
une libération, peut-être.
Une libération aussi, mais c'était aussi... Je ne sais pas l'exprimer, mais en fait, j'ai vraiment aimé la manière dont elle s'est exprimée et le fait aussi qu'elle dise, parce que tu dis qu'elle n'en parle pas à la justice, mais le fait qu'elle pointe, qu'elle ne veut pas porter plainte, en fait. Elle veut juste que ça s'arrête. Elle veut que ça puisse s'arrêter et que toutes les personnes qui sont victimes je crois qu'il s'appelle Christophe
Rudia.
Christophe Rudia,
oui.
De toutes les victimes qu'elle puisse parler, en fait, parce qu'il est encore responsable, je crois, de plusieurs autres films.
Mais il y a prescription sur les faits.
Alors,
le problème de la prescription.
En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'elle a réagi parce qu'elle s'est rendu compte qu'il risquait de refaire des films avec des jeunes enfants, des adolescents.
C'est ça. Et c'est ça qui m'a marqué, en fait, dans tout ça, c'est qu'elle reste calme et elle veut surtout que tout ça s'arrête et qu'il ne soit pas encore responsable d'un groupe d'enfants qu'il va.
Elle veut vraiment qu'il y ait un débat aussi qui s'ouvre à ce sujet. J'en profite juste pour dire que, par exemple, parce que ce qui est important aussi dans sa prise de parole, public, c'est qu'elle dit qu'elle, maintenant, elle peut se permettre de parler. Quand il y a 17 ans en arrière, elle débutait, c'était une enfant, elle n'était même pas mineure, elle n'était même pas majeure sexuellement. Oui. Maintenant, elle a eu les Césars, elle est vue, c'est quelqu'un qui est reconnu, connu, donc elle dit, je me permets de parler pour toutes celles qui ne peuvent pas s'exprimer. Il faut aussi se rappeler qu'elle est française aussi et qu'elle a une plateforme que des femmes en Afrique ou ailleurs n'ont pas.
Oui.
Et donc, à ce sujet, il y a une marche le 23 novembre, donc qui est la marche Nous Toutes.
Demain, donc.
Voilà, exactement. Et ensuite, il y a aussi, je vous invite à suivre un hashtag sur Internet qui s'appelle « J'ai décidé de vivre », donc qui est aussi une militante féministe en Côte d'Ivoire, basée en Côte d'Ivoire, qui se bat et qui essaye d'appeler, comme quoi, au niveau des réseaux sociaux, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être entendu.
On va demander aux hommes de réagir.
Je suis très content d'avoir entendu cette chronique, parce que déjà, elle était très très bien écrite. Mais au-delà de ça, je serai moi-même présent demain pour cette marche. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a sur des plateaux télé, il y a des personnes qui viennent et qui vont défendre certains réalisateurs parce qu'il faut séparer l'artiste de l'homme, que je trouve absolument aberrant. Et je pense que c'est important, justement, que des femmes qui, se disent qu'elles ont peut-être un peu moins à perdre, se lèvent et le fassent. Peut-être que ça pourra encourager ces jeunes actrices qui ont vécu des faits, qui ont peut-être, qui seront pas sous la prescription, mais qui sont arrivées la semaine dernière et qui vont pouvoir se lever et qui vont dire voilà ce qui s'est passé. Et il y aura peut-être, et j'espère en tout cas, de réelles actions qui seront menées en justice.
Merci Thierry d'avoir évoqué Roman Polanski, son film J'accuse, et toutes celles et tous ceux qui sur le plateau ne voit que le réalisateur de Tess et autres, et oublie l'homme qu'il est. Et c'est peut-être le plus important.
Woody Allen également.
Prince, vous voulez ajouter quelque chose?
Je suis à la fois ému et content que Dolores ait évoqué ce sujet, parce que c'est un réel sujet, il faut en parler. Là, on parle d'une personnalité, de quelqu'un qui est connu, mais on a beaucoup d'anonymes, notamment en Afrique, dans nos pays africains, beaucoup de filles qui sont abusées et qui n'osent pas parler. Combien de nos jeunes sœurs sur le continent font face à ce genre de cas simplement parce qu'elles ont déposé un dossier dans une société tout simplement, et ils sont dans un bureau, dans une société où il y a un monsieur mal intentionné comme ça, qui veut abuser d'elle, et malheureusement ils ne peuvent pas parler. Avec la précarité, on sait bien qu'en Afrique c'est difficile que nos sœurs s'expriment, ouais. Et ça c'est un réel problème.
Alors on a évoqué quelqu'un dont le nom n'a pas été cité, qui justement défend Roman Polanski sur les plateaux, et pas seulement parce qu'il défend une parole qui est indéfendable, enfin lui-même, il s'agit d'Alain Finkielkraut, et tu vas parler également de lui, mon cher Terry.
Exactement, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on entend tout et n'importe quoi en ce moment sur les plateaux télé, sur les radios, sur internet ou en presse écrite, bref, partout, les sorties racistes, xénophobes, climato-sceptiques, sexistes, tous ces trucs qui donnent mal à la tête, ils sont devenus monnaie courante. Le dernier en date, c'était Finkielkraut. Alors si vous ne voyez pas qui c'est, j'ai envie de dire c'est pas grave, voilà, hein, vous ratez pas grand chose, hein, c'est pas quelqu'un de très intéressant. Pour la faire courte, c'est un mec qui a un profond besoin de sortir des trucs qui n'ont rien à faire sur un plateau télé et qui continue d'être invité, ce qui est assez extraordinaire. Ouais. Et toujours sur cet individu, il était sur LCI, une chaîne française, et il a sorti cette phrase: violer les femmes, d'ailleurs je viole la mienne tous les soirs. Alors certaines personnes sans âme pourraient essayer de me dire en le défendant, oui mais Terry, si tu sors la phrase comme ça, sortie de son contexte, ça ne veut rien dire. Et à ces personnes, je répondrais, dans quel contexte violer les femmes, c'est une phrase acceptable? Je vous le dis tout de suite, hein, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Alors encore, moins diffusé sur une chaîne sérieuse d'informations objectives, pour ceux qui ne me voient pas, j'ai mis des guillemets sur sérieuse et objective. Ce qui est assez triste dans cette chronique que je vous fais là, c'est que il y a tellement d'autres exemples, il y a tellement d'autres Finkielkraut. Ils sont partout, hein, ils se sont multipliés. Ils s'appellent Éric Zemmour, ils s'appellent Pascal Praud, Marine Le Pen et j'en passe. Rappelez-vous des discours odieux sur le voile, rappelez-vous des mots profondément racistes prononcés par Zemmour et qui malgré tout n'a jamais été condamné. Et au contraire, son livre s'est vendu comme des petits pains et aujourd'hui il a sa propre émission sur C8, autre chaîne française. Et au fil des années, plus le temps passe, plus les discours se radicalisent. Hein, certains humoristes sont interdits, hein, condamnés pour des sketchs. D'autres peuvent dire exactement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Un confrère sur le plateau de Clic, une émission diffusée sur Canal+, en parlait récemment. Il existe une réalité que l'on ne peut ignorer. Au fur et à mesure que nous laissons ces individus dire ce genre de choses, on pousse la limite de l'acceptable. Je m'explique. Il y a un spectre qui établit relativement ce que l'on peut dire sur les médias et ce que l'on ne peut pas dire. Seulement, cette limite devient de plus en plus floue. En temps normal, je suis pour les libertés d'expression, mais aussi je suis pour le respect des communautés. Et donc il est primordial pour chaque personne de prendre conscience, de prendre position, de prendre la parole, de s'indigner s'il le faut, parce que je vous parle d'un phénomène qui est en France et qui se développe, mais il se développe également en Europe, aux États-Unis et à travers le monde. Donc c'est à notre génération, cette génération consciente, de répondre et de faire comprendre à ces Finkielkraut, Zemmour et autres qu'ils n'auront pas le dernier mot.
C'est clair, merci beaucoup. Et puis tu parlais, il faut s'adresser aux communautés avec respect, j'ai envie de dire aux individus et aux, oui, et aux communautés. Et puis on a bien vu que sur cette émission sur LCI, que Pujadas a quelque part dédouané Finkielkraut sur son propos « Je viole ma femme ». Alors effectivement c'était une provocation, mais qui par provocation, et tu l'as très bien dit, peut avoir ce genre de remarques?
Particulièrement en ce moment. Particulièrement oui, en ce moment,
et c'est même.
Jamais, en fait. Non, jamais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contexte, on peut sortir ça.
Et même.
Mais disons qu'effectivement, ce qui est quand même assez frappant, c'est, moi je trouve, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que, et c'est aussi un peu le cas pour ce qui se passe, par exemple, pour quand les personnes dénoncent des faits sur des réalisateurs, etc. Le problème, c'est qu'on va moins passer des choses à certaines personnes dans la société, et à d'autres, c'est tout de suite, voilà, l'hégémonie, c'est fini, vous sortez d'ici, vous êtes interdit de plateau, ce que tu notes très très bien. Et je trouve que c'est ça qui, moi, me dérange le plus, et qu'une provocation ironique comme celle que se permet de faire à Monsieur Finkielkraut, c'est, on va le défendre, alors que la même chose en face, dans le camp qu'on aime bien dire d'islamo-gauchiste, tout de suite, c'est fini, et on est voué au... Voilà. Donc on n'a pas non plus le droit au même traitement selon ce qu'on est censé représenter, et ça, je trouve ça très très grave.
Je voudrais juste vous dire qu'en 2005, il avait justement où il défend la communauté juive, et il dit, à ne pas comparer avec l'esclavage, et parce que la colonisation, pardon, il dit, attendez, la colonisation, je suis désolé, enfin la colonisation en Afrique, puis on n'a fait que du bien aux Africains, il dit ça, et puis il a ce truc terrible, la même année, il dit, les Martiniquais, ces anciennes victimes de l'esclavage qui aujourd'hui vivent de l'assistance de la France. C'est un truc complètement débile. Alors, au regard de ce que tu as dit, Terry, Dieudonné, aujourd'hui, faudrait qu'il revienne sur les plateaux de télévision.
Totalement.
Il n'y a pas de raison.
Totalement, mais le problème, c'est
on
que...
On va l'inviter, nous.
Bah, ce serait bien.
Mais nous, on va l'inviter.
Bah, si Crotty s'exprime toujours sur on les médias, je ne vois pas pourquoi Dieudonné, effectivement, ne s'exprimait pas.
Et, et d'autant qu'à l'époque, et je le dis, à l'époque, il n'y avait pas de raison de lui interdire les plateaux télé et tout cela.
Il a retiré le tiers de la main
d'or. Bah oui,
bah, c'est vraiment du deux poids, deux mesures.
Après, ils l'ont tellement poussé que voilà. Mais nous, on va l'inviter.
Ce sera avec plaisir.
Vous n'avez rien d'autre à ajouter ? Personne ? Non, ça va, ça va. Parce que là, depuis le début de l'émission, ce sont des sujets forts, importants, ouais, essentiels, cruciaux. Mais ça a un peu plombé l'ambiance du coup.
À gauche, à droite, débordement.
Musical est phénoménal. Couleur tropicale, danger.
On boit jusqu'à l'aube, on casse les verres et on paye pas.
Un instant d'humour, si vous le voulez bien, cher chroniqueur. C'est notre séquence Choisis ton sketch.
Yes.
On pourrait faire un hashtag Choisis ton sketch. Et comme il n'y a pas d'invité aujourd'hui, donc c'est vous qui choisirez.
Ouais.
Ça va être un peu démocratique, hein, parce que ça va être une question de vote. Je vous fais les propositions quand même qui sont les trois candidats à la fonction suprême. Blanche Gardin.
Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein,
Jason Booker.
Moi, avec ma femme, je suis vraiment un bonhomme, d'accord ? Je suis vraiment un bonhomme. Quand je conduis ma femme, toujours ce qu'elle fait, c'est qu'elle me caresse la nuque avec ses petits doigts comme ça. Elle me caresse la nuque. Mais je suis un bonhomme, donc je peux pas montrer que j'aime bien. Donc je suis comme ça, un bonhomme. Tu sais, alors que dans ma tête, je suis comme...
Et on vient de parler de lui.
Dieudonné. Dernière recommandation. Aucun objet métallique sur vous, les gars. Les machines ont été boostées au maximum. Bon, heureusement pour nous, il n'y a toujours pas de détecteur de connards. Hein. Donc numéro 6, tu devrais pouvoir passer sans problème. Alors on y va.
Alors ici, le vote n'étant pas anonyme. Loïka.
Allez, Dieudonné.
Ok. Une voix pour Dieudonné. Terry.
Deux voix pour Dieudonné de suite.
Ok.
Trois voix pour Dieudonné.
Prince, ok.
Et moi, c'est Jason Broker. C'est Broker ou
Broker? Broker, c'est moi qui ai mal
prononcé. C'est voilà.
Mais oui, c'est Jason Broker. C'est moi. Non, comme j'ai mal prononcé, donc c'est pour ça que personne n'a voté pour le genre. Non, je ne connais pas son nom.
Et moi, je me suis lancé. Donc, ouais, c'est Jason Broker.
Ouais. Tu te rends bien compte que tu as perdu là.
Non, mais non, parce que la dernière fois, j'avais voté pour Dieudonné et j'ai déjà dit que c'était un très très grand comédien.
Oui,
mais
d'accord. Voilà, bon. Moi, je pensais qu'il allait y avoir une égalité.
La majorité va l'emporter.
Non, et j'aurais pu trancher.
Ah, oui,
mais on peut dire que ta voix compte double.
Oui, on peut dire que ma voix compte double.
C'est ça.
Donc, Dieudonné.
Et donc, je vote pour Dieudonné.
La date des attentats était avancée au 11 septembre, évidemment, demain. Hein. Alors, les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4. Allez, du rythme, numéro 4, on se réveille ce matin, les gars, là. Est-ce qu'il y a numéro 6? Pourquoi on partirait pas en train? Sans commentaire, vas-y, distribue sans commentaire. Bon, dernière recommandation. Aucun objet métallique sur vous, les gars. Les machines ont été boostées au maximum. Bon, heureusement pour nous, il n'y a toujours pas de détecteur de connards, hein. Donc numéro 6, tu devrais pouvoir passer sans problème. Alors on y va. Pour la tenue vestimentaire, hein, Thomas me demandait tout à l'heure. Oui, numéro 5, oui, jamais de prénom. Hein. Tais-toi, ne parle pas, toi aussi tu m'énerves. Deux slips en coton brodés à votre nom, les gars. Hein. Voilà, pour protéger tout le matos, hein, la partie génitale, en cas d'explosion. Hein. Ah, je vous cache pas, s'il existe un petit risque d'explosion, les gars. Quoi. Hein, là où on a prévu d'atterrir, je dirais ça va être ric-rac quand même. Hein. Ah non, c'est la surprise. Hein. Non, vous verrez ça demain au briefing de 8h. Hein? Non, je peux pas te donner d'indice. Si, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une paroi verticale. Ah, voilà. Hein. Ah, il y a un photocopieur, il y a une machine à café. Enfin, ça passe. C'est ric-rac, mais ça passe. Hein. Normalement, c'est là où ceux qui n'ont pas trop glandé pendant les leçons de pilotage vont faire la différence. Et voilà. Hein. Est-ce qu'il y a numéro 6? La récompense, oui, mais j'y arrive, une seconde, les gars, là. Oui, mais je veux dire, là, c'est pas un ingrat. Hein, y aura pas de coup de pute, c'est à la confiance aussi, les mecs. Donc, en plus du statut de martyr, hein, que vous aurez tous, vous aurez le droit à 1000 vierges par personne. Non, ça, c'est... Ah, c'est cadeau, c'est à vous, ah, c'est à vous. Ah, vous en faites ce que vous voulez, vous. Ah, mais vous jouez avec, quand je veux dire, vous... Tu fais du foot, tu fais des équipes, tu fais ce que tu veux. Ben, après, c'est à vous. Ah, une fois que vous êtes chez Allah, attention. Hein. Ah non, il n'y aura pas d'acompte ce soir. Non, attention, les gars. C'est une fois que vous arrivez chez le patron. Hein. Ah ben, c'est quand vous arrivez. Vous arrivez chez Allah, bon, ben, vous frappez, bien sûr, la politesse, hein, vous sonnez. Bon, vous vous présentez. Alors, vous dites que vous êtes la fine équipe du 11. Hein. C'est le mot de passe, ça, ils comprendront, les gars. De toute façon, vous êtes attendu, hein. T'imagines bien, il y a tout un tas de bras cassés là-haut, vous ne serez pas tout seul. Hein, hein, 1000 superbes créatures, les gars, vous allez voir, on ne s'est pas foutu de votre gueule. Alors, hein, qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? S'il pouvait y avoir des mecs dans l'eau. Mais pourquoi, monsieur? Oui, mais toi, ça t'intéresserait, les mecs? Mais oui, vous prévenez la veille, les mecs.
Franchement, alors, génial. Ce sketch.
Il est génial. Non, il est bien.
C'est le meilleur.
Il est bien parce qu'il continue de bien. Ça m'a fait me rappeler qu'en fait moi le 13 novembre 2015 j'étais dans son théâtre à la Main d'Or, vu qu'il parle un peu aussi de ça. Du coup c'était une nuit assez particulière.
Ouais.
Juste la question de la séparation de l'homme et de l'artiste, je trouve juste que certaines de ses prises de position politique, je suis plus du tout, quoi.
Bah oui, bien sûr,
c'est malheureux parce que pour moi c'est l'un des plus grands.
Ah bah, très clairement.
Humoriste, il y a pas.
Ouais, très clairement, mais on peut effectivement, mais dissocier l'un de l'autre, non, on peut dire, bah non, là, sur ce coup-là, on n'est pas d'accord.
C'est ça.
Bon. Après, il a violé personne.
Oui, voilà, bien sûr.
Il n'a rien fait d'illégal, le garçon. Il a des sorties politiques qui, parfois, bon, c'est un petit peu compliqué, je ne suis pas tout le temps d'accord.
Ouais, plus que
mais,
ça, même.
Il est drôle, le mec.
Oui, mais c'est deux choses. Parce que, en fait, le truc aussi, c'est de tomber aussi sur. Moi, j'ai pas envie. Enfin, j'aimerais juste que Zemmour ne soit plus à la télé. Puis il mérite de ne pas l'être.
Ouais.
Et que sur certaines prises de position récentes, notamment de Dieudonné, ou des accointances avec l'extrême droite, etc., françaises notamment.
On est d'accord.
Voilà, ça, je peux pas.
On est d'accord.
Et après, en tant que humoriste, il ne mérite pas d'être vous, d'être rendu sur la place
publique. Effectivement, on est d'accord, il n'y a pas de. Avec l'extrême droite, quels que soient les extrêmes, les gens les rejettent, on négocie pas.
Impossible.
D'accord, mais il y avait quand même un truc que très, très sympa dans son sketch, c'est quand il parlait des détecteurs de connards. Je pense que ça pourrait être bien d'utiliser ça juste avant d'entrer.
Si vous avez la machine à la maison, vous nous l'envoyez. On la testera, pas sur nous.
Non, c'est ça. On n'a pas besoin.
C'est le moment du quiz.
Ouais.
Alors, vous pouvez prendre. Non, pas tout de suite, mais vous pourrez utiliser vos téléphones pour une question.
D'accord.
Mais pas pour la première. Attention, j'ai quatre questions à vous poser. On cherche des personnages.
Oh.
Alors, il est né le 22 novembre 1869 à Paris, dans le 6e arrondissement. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1947. En 1927, il publie un brûlot, un réquisitoire contre les pratiques coloniales.
Ah, c'est Gide.
Ce texte. Oh oui! Oh oui! Wow. Voyage au Congo, André Gide.
Exactement.
Nous a quitté en 51.
C'est pas mon morceau de bravoure, maintenant je vais dormir.
Oui. Et celles et ceux qui n'ont pas lu Voyage au Congo doivent le lire. C'est probablement un des réquisitoires les plus violents, et à juste titre, contre le colonialisme, contre les sociétés concessionnaires, contre l'administration coloniale. Il dit sur le tracé du Congo-Océan, il dit une phrase vraiment, moi, qui m'a marqué depuis l'âge de 17 ans. Il dit « Chaque traverse de la voie ferrée Congo-Océan a coûté une vie humaine, une vie africaine. » Il parle des villages que l'on déporte, donc des femmes et des hommes, des enfants, pour travailler pour la construction du Congo-Océan. C'est pour ça que lorsque certains disent que la colonisation, mais regardez, on a construit des hôpitaux et
c'est
des
honteux.
Routes.
C'est honteux.
C'est honteux. C'est honteux. Ouais. Allez, attention.
Et le chemin de fer, juste pour corroborer ce que tu dis, c'est quand même 510 km² et ça a été galère, en tout cas.
Exactement. Mmh. Bah, qui arrive jusqu'à.
De Pointe Noire à Brazzaville.
Exactement. Mmh. Exactement. Oui, enfin, je veux dire, après, il va être dans le cœur de l'Afrique.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, attention, le 22 novembre sort l'album. Ne vous moquez pas de ma prononciation en anglais. My Beautiful Dark Twisted
Kanye
Fantasy.
West.
Deux points pour Dolores. elle vous massacre.
Mais non.
Elle vous marave.
C'est vrai, là.
Je comprends pas pourquoi tu ne l'as pas eu.
Maintenant. Alors, en plus, on va parler de Kanye West avec toi
tout à l'heure.
Maintenant, prenez vos téléphones.
D'accord.
Sauf si certains n'en ont pas besoin. Dolores, peut-être que tu n'en as pas besoin.
Attention.
Qui est Camille Mortenol?
Oh.
Waouh.
Alors, Camille Mortenol est née à Fort-de-France. Moi, je n'ai pas besoin d'eux.
Ouais, j'aurais
il est né, bah voilà, non, je vous le dis. Mais il faut que vous m'en disiez un petit peu plus. Je vous laisse le temps de chercher, le temps de trouver.
Oui, mais bon.
Il est né en mort.
Là, on a la biographie entière.
Oh alors, moi, j'ai Thierry est éliminé puisqu'il n'a pas de réseau.
J'ai pas de connexion internet.
Pas de connexion.
Éliminé. C'est un officier, un officier supérieur.
Oui, mais si, oui, mais très rapidement, vous devez dire.
Un officier supérieur.
Voilà, exactement.
Polytechnicien.
Ouais. Exactement.
Capitaine de vaisseau de la Marine nationale.
Exactement. Alors vous savez ce qu'il a fait. Alors très bien. Allez, je vais accorder. Là, voilà. Il est né esclave.
Voilà, c'est ça. Son père était affranchi en 1847.
Exact. Mais lui, il s'est racheté. Enfin, il a acheté sa liberté. Camille Mortenol est devenu donc officier de l'armée française. Alors il a combattu dans les armées coloniales et tout ça. C'est moins. Mais bon, bref, avec le recul du temps. Mais à l'époque, bon, voilà. Il a été chargé de la défense de Brest en 1911. Il a été capitaine de vaisseau. Et c'est quelqu'un. C'est lui qui a assuré, durant la guerre 14-18, la défense aérienne de Paris.
D'accord.
Rendez compte, le gars, voilà. Il est sorti de l'esclavage pour devenir ça.
Voilà.
Et c'est un héros de film. C'est une histoire hollywoodienne, son histoire.
Et ça, justement, il faut aussi, ça peut donner ça des idées à ce qu'on a un blockbuster avec.
Je vais faire un film. Attention pour terminer, quatrième question. Elle est née le 22 novembre 1965 en Côte d'Ivoire. On la surnomme la reine de l'afrozouk. De qui s'agit-il?
Monique Seca.
Oh ouais, oui.
J'allais
oui
dire. J'allais dire.
Oh j'allais oui dire. Oh oui. Un point pour Prince. 2 pour Dolores, 0 pour Loïka, 0 pour l'homme que l'on appelle Derek, mais c'est pas de sa faute.
Non, c'est pas de sa faute.
Après la reine de l'Afrozouk, donc 1 point pour Prince Bafouolo. Après la reine de l'Afrozouk, le prince des hémicycles. Je cherchais une transition parce que depuis que Terry m'a dit que mes transitions sont sympas,
Écoute. Alors, puisqu'il y a deux femmes sur le plateau et une féministe, notamment, je ne sais pas si...
Moi aussi, je suis féministe. Prince, je suis féministe aussi.
Ah oui?
Oui. Bah oui.
Ah, je ne savais pas.
Oui.
Bon, mais... désormais, je le sais.
Terry, bon. Regarde.
Terry aussi.
Et toi, Terry?
Bon,
quasiment.
On est tous féministes.
À deux, trois détails.
Alors, j'ai décidé de faire un flashback pour raconter l'histoire de Zuleika Hassan, cette députée kényane qui est arrivée à l'hémicycle avec son nouveau né. C'était en août dernier. Je n'ai pas trouvé un mot de garde pour lui. Je ne voulais pas louper mon devoir parlementaire, martelait-elle. Ça en dit long sur l'esprit patriotique, le sens du devoir, la conscience professionnelle de cet élu, du moins à en croire ses propos. Alors, cet élu a expliqué que le projet d'installation de crèches au Parlement, décidé en 2013, n'avait toujours pas vu le jour et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de venir avec son bébé. Problème, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Kenya interdit la présence de personnes étrangères dans l'hémicycle, enfants y compris. Donc le président de la Chambre lui a demandé de débarrasser le plancher. La scène a créé le tollé à l'hémicycle et l'émoi dans tout le pays, et peut-être aussi sur ce plateau.
Est-ce
que vous en pensez?
Très clairement. Alors.
Mais oui, écoute, moi je trouve qu'elle a complètement eu raison en fait, et que ça les a mis devant le fait accompli. C'est-à-dire que comment on fait quand on veut faire son devoir de parlementaire, mais qu'en même temps on a un enfant et que ce qui a été promis n'est pas en place en termes d'infrastructure. Et je veux dire, ça c'est le problème de la vie de toutes les femmes dans le monde. Malheureusement, en fait, je trouve que la vie professionnelle en général n'est pas du tout faite pour les personnes qui travaillent et qui ont des enfants. Enfin, la vie professionnelle n'est pas faite pour les personnes qui ont des enfants. Et notamment, c'est encore à charge les femmes, etc. Donc, je trouve cette histoire absolument édifiante. Elle a eu beaucoup de courage. Bravo, Zuleika.
Qui a des enfants ici?
Moi, j'en ai pas encore.
Pas encore.
J'ai un beau petit garçon.
Tu as un petit garçon.
Prince Daniel, que je salue en passage.
Ouais.
Moi j'ai un chien.
Que tu considères comme ton enfant.
C'est comme mon fils, je vous le dis. Ma mère le voit comme son petit-fils.
Tu me gardes un petit dès que. Loïka,
moi non plus.
Pas encore. Donc je suis le seul ici à avoir. Nous sommes deux, Prince et moi, un enfant. Non, mais c'est bien, c'est très important. Et puis, surtout, c'est incroyable que les hommes. Oui, tu voulais ajouter, Prince?
Oui, juste un petit parallèle avec la Nouvelle-Zélande, où le député travailliste Tamati Koffe est revenu au Parlement après un congé de paternité. Il est revenu avec son bébé.
Ouais.
Et en fait, son intervention, l'heure de son intervention, a coïncidé avec l'heure du biberon. Et c'est le président de la Chambre qui a donné du lait à son enfant pour permettre
Voilà, exactement. On va parler de Salif Keïta.
Bien sûr.
D'accord.
Le grand frère.
Exactement.
Messieurs, chalet.
À gauche, à droite, débordement.
Couleur tropicale, top show.
Avez-vous suivi les déclarations de Salif Keïta en ce qui concerne la situation du Mali, dans le rapport entre le Mali et la France? Non,
ouais,
n'est pas suivi.
Pas trop, non.
Vous savez quoi? Je vais vous faire écouter.
Je pense qu'il a raison.
Toi, tu as entendu. Mmh. Toi, tu penses qu'il a raison.
Je pense qu'il a raison.
On peut permettre aux autres d'écouter aussi, Prince?
Ah oui, bien sûr.
D'accord.
Oui.
Reportage TV5
Monde. Tu sais pertinemment que c'est la France qui poste des gens pour tuer les Maliens. C'est la France qui paie des gens pour faire ça. Pour ensuite faire courir des rumeurs disant qu'il s'agit de djihadistes. Tu sais bien que c'est la France.
Le chanteur propose même à Ibrahim Boubacar Keïta de démissionner s'il ne se sent pas capable d'assumer ses fonctions sans peur. Salif Keïta reproche une prétendue soumission au président français Emmanuel Macron.
Un gamin comme ça.
Des mots qui font naturellement réagir. Dans un communiqué publié sur Facebook, l'ambassade de France au Mali les condamne.
L'ambassade de France dénonce avec la plus grande fermeté ses propos au caractère infondé, diffamatoire et outrancier. À l'instar des nombreuses autres rumeurs ayant libre cours au Mali, de tels discours font le jeu de ceux qui cherchent à semer la discorde et entretenir le chaos.
Pour le moment, silence radio du côté des autorités maliennes, mais une chose en tout cas semble sûre, un certain sentiment anti-français se renforce dans le pays.
Sentiment anti-français que l'on retrouve un petit peu partout hein, en Afrique francophone. Alors, celles et ceux qui n'avaient pas entendu les propos de très durs de Salif Keïta, réaction?
Il a raison. Je suis totalement du coup d'accord avec toi, Prince. Il a raison. C'est une réalité qui dort un petit peu, que certains n'osent pas dire à haute voix.
Alors, mais il a raison sur quoi?
Il a raison sur l'ingérence française.
D'accord.
C'est une réalité.
Mais lorsqu'il dit que la France paye des personnes pour tuer des Maliens,
c'est une accusation qui est grave. Mais en attendant, les armes d'où viennent-elles?
Alors, sur cette question-là, Loïka.
Moi, je pense qu'il ne faut pas s'avancer, justement. C'est ce que je dirais à Thierry. En tout cas, il ne faudrait pas s'avancer pour dire que les Français payent. Mais c'est vrai que les pays occidentaux font beaucoup d'ingérence dans les pays.
De toute façon, l'histoire de la Libye, je pense qu'il n'y aurait pas ces problèmes au Mali, au Burkina Faso et un petit peu partout au Niger s'il n'y avait pas eu la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi.
En tout cas, si jamais c'est avéré, c'est gravissime. Et je trouve aussi que le fait que Salif Keïta, qui est quand même plutôt un chanteur qu'on apprécie ici, qui a, je pense, une bonne relation avec la France, le fait qu'il prenne sur lui de dire ça, et je pense que c'est qu'il y a, il doit y avoir quand même un vrai, vrai gros problème, il doit en avoir sacrément ras-le-bol. Après, il faut qu'il y ait une enquête là, parce qu'on ne peut pas sortir ça comme
c'est
ça,
vrai,
et ensuite, il faut qu'il y ait une enquête. Si c'est avéré, c'est gravissime.
Je suis assez d'accord. Alors, effectivement, on se dit, mais la France ne peut pas payer pour faire tuer ses propres soldats, parce que c'est quand même ça, il y a des soldats français qui meurent, mais il y a énormément de soldats maliens qui se font tuer. Lundi, encore 24 soldats maliens lors d'un accrochage avec les djihadistes sont morts, 17 djihadistes, mais eux, ce sont eux qui sont venus chercher la bagarre, donc bon, ils ont perdu la vie. C'est quand même suffisamment grave pour s'interroger suite aux déclarations de Salif Keïta et se dire, attendons de voir. Tout le monde réagit.
Oui, mais attendons de combien de temps encore? Parce que la réalité est que l'intervention française au Mali depuis Hollande est arrivée donc sous demande
d'Ibrahim Boubacar Keïta. Exactement.
Il avait été acclamé
Hollande à ce moment-là.
À un moment,
certains enfants au Mali s'appellent François Hollande.
Hein. Bien sûr.
Mais à cette période-là, effectivement. Mmh.
Donc il y a une présence française sur le terrain depuis un moment pour des raisons géopolitiques qui sont plus ou moins évidentes.
Oui.
Mais à un moment, l'enquête, les véritables raisons, on les demande depuis bientôt 10 ans et on n'a toujours pas de réponse.
Oui, mais là, en tout cas, quand on tient des propos de cette teneur-là, ce sont des propos qui sont diplomatiquement très graves. Quand il dit Macron, c'est un gamin comme ça, je veux dire, ça va très loin. Donc moi, franchement, à ce moment-là, j'ai vraiment envie d'avoir une enquête sur est-ce que ces faits-là sont avérés. S'ils sont avérés, c'est grave. Si c'est des accusations en l'air comme ça, c'est pas bon non plus.
Oui.
Ça, il n'empêche que l'ingérence française, elle est totalement condamnable, bien sûr. Mais il y a plusieurs choses. Au milieu, il y a quand même des personnes qui fondamentalement font sauter avant tout des Maliens.
Ouais.
Moi, c'est ça le...
Ouais.
Et une opération qui se déploie, soi-disant, pour contrer ça. C'est encore autre chose. Mais voilà.
En tout cas, sur les réseaux sociaux, tout le monde débat autour de cette question-là. Salif Keïta avait-il raison? Les réseaux sociaux s'affolent. Mais ce n'est pas ce dont tu vas nous parler, Loïka.
Pas du tout, pas du tout. Alors, vous avez écouté le nouvel album de Kanye West ?
Yes.
Et vous en avez pensé quoi ?
C'est trop bien.
Absolument génial.
Moi, je l'aime
excellent,
bien.
Parce que dans le but de la
semaine... Elle n'a même pas attendu vraiment nos avis. Excellent. Mais va poursuivre, Loïka.
J'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, en tout cas. Bah, c'est excellent parce que dans le bulletin de la semaine, il y a un nuage de doute aux États-Unis, et ce depuis le 25 octobre, date de sortie de l'album Jesus is King de Kanye West. Ce nuage de trouble s'est étendu dans le monde physique et virtuel, avec pour grande question, Kanye West est-il réellement devenu religieux ou est-ce qu'il essaye de nous faire oublier ces deux années de névrose dont nous avons tous été témoins sur Twitter notamment. La question reste entière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a du talent.
Oh oui.
To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the strippers.
She just wants the death.
To the victims of welfare, for we living in hell here. Hell yeah.
She just wants the death.
Et pour changer un peu, des éclaircies au Ghana avec la visite de l'acteur et ceinture noire des arts martiaux Jet Li. Pour le prendre pour le sommet de Africa Netpreneurship qui promeut l'entrepreneuriat en Afrique. Visite qui a ému plusieurs puisque on le sait, Jet Li est un philanthrope et il aime bien ce genre de cause. Et en Côte d'Ivoire, le soleil est à son zénith. Les internautes se réjouissent de la deuxième édition de Miss Nappy qui a eu lieu le 16 novembre.
Loïka, on est avec Kanye West. Tu es déjà partie là ?
Mais bien sûr, je suis partie.
Mais
là.
Non, mais oui, mais moi je pensais qu'on allait dire deux mots quand même sur Kanye West, dire que c'est magnifique, c'est super,
ah,
ok.
Mais bien sûr, si,
c'est
si,
bien
si,
orchestré. Ça me rappelle quand même du Bobby McFerrin parce que c'est lui un peu Etexix. Voilà, je pensais qu'on allait avoir quelques. Ok, d'accord, je me tais. Donc alors, nous sommes en Côte d'Ivoire avec les Nappy. Non, mais très bien.
C'est une météo. Hein,
d'accord,
c'est,
ok, c'est une météo.
Météo là, écoute,
nuage de ce côté-là.
Mais oui. Alors,
désolé.
Donc, normal l'élu, de saison.
C'est ça, merci. Donc, Miss Nappy, elle a été élue le 16 novembre. Et puis, l'élue, elle s'appelle Célia Trocposou. Elle a 23 ans, elle est très naturelle. Et oui, maintenant, on s'assume.
Comme vous,
donc,
comme vous,
voilà, excellent. Donc, Dolores, on va pouvoir y participer.
Et
la règle est simple. Ah, si. La règle est simple, il faut avoir des cheveux naturels. Donc, voilà, brouillard de confusion et surtout brouillard de réseau sur les réseaux sociaux. En République démocratique du Congo, après une vidéo qui est apparue qui est très troublante, on y voit une personne dont je tairai le nom dire à une jeune femme, je ne te lâcherai pas, dis-moi que tu ne me lâcheras pas. Bah, moi j'ai envie de leur dire, lâchez-nous avec ce type de contenu explicite.
Mais ouais.
Et pour finir, en France, nous sommes en automne, et puis qui dit automne dit tempête, ce qui explique la tempête de colère qui a eu lieu, et avec le rappeur Nekfeu qui a manifesté ce week-end aux côtés des Gilets jaunes. C'est vrai, plusieurs ne comprennent pas qu'on puisse être acteur, qu'on puisse être rappeur et avoir des opinions personnelles.
Alors qu'on est citoyen avant tout,
voilà.
N'est-ce pas ? Qui a quelque chose à dire sur cette météo ?
C'était une très très belle météo. Et en plus, j'ai vraiment beaucoup aimé le passage sur Kanye West parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui lui tapent dessus sur le fait qu'il se soit un petit peu. Qu'il ait décidé de faire cet album alors qu'en effet, il y a quelques années, il était dans un délire un petit peu particulier. Mais je trouve que c'est bien, ça fait la promotion de l'art, de la culture du gospel que je trouve absolument bien. Et de lier le rap à ça, je trouve ça absolument génial de le faire sur un album.
Après, bon, moi j'ai juste un petit souci sur le côté justement rap chrétien un peu parce qu'on sait que c'est. Un peu le ferment et l'essence en fait de quand même de Donald Trump et de cette Amérique un peu conservatrice, mais voilà, le mec est toujours hyper créatif, il sort toujours des concepts incroyables. C'est juste qu'après je le trouve un peu perdu au niveau
mais il a pas l'air de vouloir revenir dans autre chose que du religieux en tout cas.
On va voir.
Ouais.
Ainsi s'achève le 5e numéro du talk show de Couleur Tropicale avec Loïka, Dolores, Prince et Terry. Merci, bonne semaine à vous.
Merci beaucoup.
Bonne semaine. Avant la fin de l'année, enfin la fin de l'année, on va avoir une émission un peu spéciale tous ensemble.
Mais non. Oui,
on se quitte avec Kanye West.
Fin des fins. C'est ça.
Salut la famille, on se retrouve lundi. Quand même tu sais.
Donc tu nous souhaites bonne semaine vendredi. Merci.
Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.